je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais.
Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences.
La vie t'arrache à moi si tu meurs. Que tu sois loin de moi, de ma barbe, si tu m'aimes, par moi j'aimerais aussi.
Auditeur de Tranche de Vie, je suis aujourd'hui en compagnie de Michel. Michel est une personnalité importante de la commune de Coulounieix-Chamiers car c'est le président des jardins cheminots. Vous savez, ces jardins que l'on voit dans certaines périphéries de notre commune et qui sont si actifs. Michel a accepté de nous parler simplement de sa vie, de ses activités professionnelles et puis aussi de cette activité des jardins cheminots qui occupe maintenant sa retraite. Michel, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ?
Bonjour à tous les auditeurs. Écoutez, je peux me présenter. Comme j'étais cheminot, eh bien, quand l'association des jardins du cheminot s'est créée à Chamiers, j'ai été presque désigné pour être président. Donc j'ai accepté cela avec grand plaisir parce que je jardinais déjà. Mais bon, c'est une tâche assez importante puisqu'il y a quand même 85 jardins le long de la voie de Périgueux jusqu'à la locomotive.
Michel, est-ce que vous êtes devenu président de l'association des jardins cheminots alors que vous étiez encore en activité ?
Non, ça a été la suite de mon activité professionnelle parce que dans ma profession, j'étais cheminot, mais j'ai travaillé dans la gestion presque de toute ma carrière de cheminot. Disons toute la carrière même.
Alors, on va parler d'abord, avant d'aborder les jardins, on va parler un peu de votre carrière de cheminot. Vous êtes à la retraite maintenant depuis un certain nombre d'années. Comme pour les dames, on ne va pas vous demander ni votre âge ni depuis quand vous l'êtes. Vous êtes à la retraite, mais quand vous êtes entré à la SNCF, vous aviez quel âge ?
Alors, je suis rentré à la SNCF, j'avais 20 ans et demi. Donc c'était la période où encore il fallait l'autorisation des parents.
Ah oui, c'est vrai que c'était encore la période de la majorité à 21 ans.
Voilà.
Et alors, vous êtes entré en apprentissage, vous êtes entré comment ?
Non, je ne suis pas rentré en apprentissage parce que l'apprentissage c'était à 18 ans et moi j'étais dans une région qui est différente d'ici mais qui n'est pas très loin puisque je suis originaire de Villeneuve-sur-Lot. Et il n'y avait pas de train allemand là-bas, mais j'avais fait mon service militaire, puisque j'ai fait mon service militaire un peu par devancement d'appel, et j'avais fini mon service militaire, donc, et il fallait que je trouve du travail, puisque je ne suis pas une famille de cheminots, j'étais une famille d'agriculteurs, voilà.
Alors, vous venez de la terre, vous avez un joli petit accent de la région dont vous êtes originaire, et vous êtes venu chercher du travail à Périgueux.
Non.
Non, pas à Périgueux tout de suite.
Pas du tout, pas du tout. Non, non, je suis allé d'abord dans la région parisienne, à Paris même, et je suis rentré au chemin de fer dans la région de... parce que je dis dans la région, parce qu'avant, la SNCF, et encore d'ailleurs, c'est les régions, là-bas c'était la région ouest. Et j'ai fait une demande que j'ai écrite, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, le travail, ça marchait quand même assez bien, puisque j'ai écrit le 1er juillet, et le 7 août, j'étais déjà embauché.
Vous vous rendez compte, c'était vraiment une époque de rêve, là.
Voilà. Donc, c'était l'Eldorado pour moi d'aller dans la région parisienne.
Et là, vous n'avez pas eu peur d'affronter la vie parisienne, mais vous aviez eu une formation technique ?
Non.
Vous aviez fait des études techniques avant ?
Non, non. Non, 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 j'ai un simple certificat d'études. Et je suis rentré comme manœuvre à la SNCF à travailler sur les voies, à Argenteuil.
Donc vous êtes vraiment parti de la base. De la base, mais sans, étant donné votre âge, sans passer par l'apprentissage. Après ça, vous avez donc gravi les échelons dans la SNCF, toujours voilà, en région, oui. Dans la région Paris. Vous êtes resté longtemps dans la région parisienne ?
Je suis resté 5 ans, mais j'ai travaillé 2 ans à la voie et 3 ans. Donc après, j'ai passé un examen pour être dans la gestion magasin, qu'on appelait. J'ai toujours évolué dans cette branche, parce que à vrai dire, il faut le dire que j'ai la vocation de la gestion, puisque déjà à l'armée, j'étais au secrétariat-major. Et tout jeune, j'étais à l'école aussi, je m'occupais de la bibliothèque, je m'occupais de beaucoup de choses.
Non, mais là, je crois que je vois apparaître déjà une autre facette de votre personnalité dont il faudra qu'on parle, c'est celle du collectionneur. Donc vous aimez bien trier, mettre en ordre les choses.
Voilà.
Alors, quand vous êtes rentré à la SNCF, vous aviez fait votre service militaire.
J'avais devancé l'appel, parce que c'était la période de la guerre d'Algérie. Et en 61, il y avait toujours la guerre d'Algérie, et j'avais un frère qui était en Algérie. Et deuxièmement, je voulais travailler. Donc je me suis dit, si pour pouvoir trouver du travail, il faut que je sois déjà dégagé des obligations militaires, parce que c'était important. Donc voilà, ça fait que ça a été comme ça. Je fais mon service militaire en Allemagne. Et en 1962... L'Algérie, au 19 mars, s'est arrêtée. Mon frère était revenu 2 mois avant. Donc, je suis resté. Ils m'ont laissé en Allemagne. Et j'ai même été la première classe, parce que quand je suis parti, c'était 28 mois. Et j'ai été la première classe à faire 18 mois.
D'accord. Donc, il y a eu quand même un concours de circonstances plutôt favorable qui vous a permis d'éviter la guerre d'Algérie.
Tout à fait.
De vous débarrasser du service militaire. Et puis, en plus, il a été raccourci au moment où vous êtes passé. Donc voilà, vous commencez votre carrière à SNCF, d'abord aux voies, ensuite par le biais de la sélection des compétences, vous arrivez au magasin, une autre spécialité.
Voilà.
Et toujours à Paris, toujours dans la région parisienne.
Oui, et puis alors après, étant de la province, j'ai essayé, comme beaucoup de jeunes, de revenir au bout de 5 ans de la région parisienne, et je suis arrivé à avoir, on m'a proposé Brive-la-Gaillarde.
Oui.
Et Brive-la-Gaillarde, c'était, je ne connaissais pas de... Vraiment, je connaissais géographiquement, mais... Et je suis allé là-bas, et puis là-bas, je suis... J'ai vécu 15 ans où je me suis marié, j'ai eu des enfants et une maison.
Vous avez une vie, une partie importante de votre vie qui s'est déroulée à Brive-la-Gaillarde.
Voilà,
Brive,
ça a été
mais malgré tout, vous n'avez pas attrapé le virus parisien comme certains provinciaux qui vont là à Paris puis qui y restent après vous. Vous avez
non, voulu
revenir chez les gens sensés, c'est-à-dire dans la province.
Et alors, voilà, et puis à la suite de ça, après j'ai été muté à Chamiers. L'atelier magasin de Chamier, et j'étais aux ressources humaines. Chacun sait ce que c'est, les ressources. À l'origine, on appelait ça le bureau du personnel.
Oui, voilà.
Et puis voilà, et puis j'ai fini ma carrière là, 15 ans à Chamier. Et voilà, et alors quand j'étais au moment de partir à la retraite, cette association, le Jardin du Cheminot, c'est pas une association qui s'est créée à Chamier, mais c'est une association qui est au niveau national.
Oui.
Mais les jardins de la SNCF à Chamiers étaient vraiment gérés comme ça par un employé de ressources humaines de Périgueux. Et la SNCF a considéré qu'elle n'avait plus vocation de gérer des jardins. L'association Le Jardin du Cheminot, qui sa nouvelle appellation c'est Jardino,
oui,
étant au niveau national depuis 1942, je crois, un truc comme ça, elle avait vocation de s'occuper des jardins sociaux, donc elle a loué le terrain à la SNCF. La SNCF a loué aux Jardinaux.
Mais ça reste quand même, est-ce que ça reste quand même une association qui regroupe beaucoup d'anciens cheminots ?
Oui, mais à partir du jour où nous avons monté cette association-là, on a considéré que 85 jardins, il fallait quand même ouvrir un peu sur la commune. Il y en avait déjà, mais enfin un peu moins. Et donc, on a dit, on va commencer à prendre des gens de la commune, en plus des cheminots. Et comme les cheminots, il y en a de moins en moins, qui sont de plus en plus loin, ils ont fait construire, ils habitent ailleurs, il y avait moins de candidats, si on peut dire.
Les cheminots qui sont dans votre association, c'est aussi bien des cheminots de la partie roulante de la SNCF que des gens qui viennent des ateliers de
réparation. Oui. Alors oui, les adhérents à l'association qui sont jardiniers, ils sont de n'importe quel service. Hein. Le principal, c'est d'avoir le courage de travailler. Ouais. Donc vous voyez, parce que dans tous les services, il y a des jardiniers et des non-jardiniers. Donc on prend tout ça. Alors, et puis sur la commune de Chamiers, il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment bien jardiner.
Alors, vous n'avez pas un recrutement, alors je retiens moi que vous n'avez pas seulement un recrutement de la commune, mais aussi de personnes qui sont venues habiter dans la commune et qui viennent d'ailleurs.
Non, nous avons un Kosovar, nous avons un Albanais, plusieurs Marocains, surtout les Marocains d'ailleurs, mais ils travaillent bien, ils se font des...
Bon jardiniers, les Marocains.
Oui. Non, c'est ouvert à tout le monde, on paye une cotisation.
Alors, dites-moi un petit peu pour nos auditeurs, 85 jardins, ça représente quelle superficie ?
Ben, à peu près, ça fait des jardins entre 150 et 200 mètres carrés.
Parce que ça fait plus d'un hectare.
Ah oui, un hectare et demi à peu près, parce qu'il y a un chemin, donc vous voyez, il y a des... Et depuis 3 ans, il se trouve que Jardineau, au niveau national, il y a eu une délégation qui est venue de Paris et qu'ils ont dit il faut qu'on raménage ce site-là. Bon, alors effectivement, quand nous avons notre assemblée générale tous les ans, qui est au mois d'octobre, quand on a présenté ça à l'assemblée générale, effectivement, ça a un peu mis un peu de l'émoi à chacun.
Ah oui, parce que ça voulait dire qu'ils seraient obligés de démolir certains aménagements,
voilà,
ou de laisser s'installer des aménagements collectifs qu'ils n'avaient pas prévus.
Et il y a une chose auquel que j'ai oublié de dire, mais que je reviens, c'est qu'à l'origine, nous avons créé cette association parce qu'il y avait un danger. Ce danger, c'était qu'il y avait une pénétrante qui devait partir du rond-point de Mérillé pour aller retomber au Toulon. Et si cette pénétrante, elle avait été faite, ça prenait tous les jardins.
Ah oui, parce que ça allait longer...
C'était du temps de l'autre, du conseil municipal, et enfin, la CAP, à ce moment-là c'était la CAP, c'était pas le Grand Périgueux. Donc, nous avons créé aussi, dans ce domaine-là, de façon à pouvoir faire une résistance par rapport à ces terrains et dire si on nous prend ces terrains-là, on pourra essayer de voir s'ils peuvent nous donner autre chose. Ça avait un caractère aussi social et de...
Que vous avez fait valoir aussi.
De faire valoir tout ça.
Pour sauvegarder ce terrain.
Voilà.
Bon, est-ce que ça, c'est encore un risque, cette pénétrante?
Non, il n'y a plus de risque, apparemment, parce que le conseil municipal, il y a quelques années, là, a pris une décision justement contre cette... maintenant c'est abandonné ce projet, totalement, puisque je ne sais pas si vous avez vu, au rond-point de Mérillé, il y a un nouvel aménagement qui est... le Grand Périgueux, depuis 2 ans, sous la présidence de M. Ozou, ils ont le projet dans le cadre de la... politique de la ville, maintenant, il y a un grand projet qui justement, ils sont descendus, tout le Bas-Chamiers va être tout réorganisé.
Oui.
Donc, ça complète le projet de Jardineau de pouvoir réorganiser les jardins, mais ça a un impact parce que Jardineau, ils se sont dit « Ah, ben c'est intéressant, puisque le Grand Périgueux s'y intéresse, on va pouvoir partager les frais pour l'aménagement.
»
Bon, le Grand Périgueux, il débute dans ce grand projet. Le projet, M. Ozou, il a dit, ils m'ont donné d'ailleurs un stylo où il y a marqué 2026. D'ailleurs, ils ont fait une affiche 2016-2026. Donc ça veut dire que nous n'aurons pas avant 5 ou 6 ans d'aménagement avant qu'ils aient trouvé... Parce qu'il y a tout le Bas-Chamier à partir de la Nationale.
Ah oui, c'est-à-dire que ça supposerait une extension des terrains dont vous pourriez disposer, ça ?
Non, mais c'est un réaménagement.
Simplement des aménagements qui sont prévus au titre de la politique de la ville.
Oui. Seulement, il faut refaire les conduites d'eau et tout ça. Ouais. Alors chacun se dit, le jardineau, il dit, on va dire au Grand Périgueux qu'il prenne ça, nous on prendra peut-être ça, mais ça va permettre que ça va retarder les travaux.
Mais par contre, qu'il y ait des résistances de la part ou de l'appréhension de la part des membres de l'association, c'est quand même compréhensible, parce que si on a affaire à des gens qui ont vraiment bien engraissé leur terre, oui, qui l'ont bien améliorée, ils risquent de se retrouver perdants quand même, s'il y a redistribution des lots.
Au départ, vous savez, quand il y a un projet qui se présente, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont d'accord. Oui, oui. Ça, c'est comme dans tous les projets, donc vous comprenez.
C'est vrai qu'on n'aime pas bouger, pas trop bouger, mais enfin, les jardins, les jardiniers, c'est compréhensible.
Mais je peux vous dire quand même que chacun a compris qu'il fallait, pas laisser là-bas parce que c'était la junte de Calais, presque. Parfois, vous comprenez.
Oui, c'est vrai.
Mais non, mais chacun s'est aménagé et il s'y en trouve bien.
Chacun fait un petit abri, alors quelquefois avec des matériaux de récupération,
tout
c'est
à
pas
fait,
forcément
tout à fait.
Très
donc,
joli, bien sûr.
Vous comprenez bien que c'est bon.
D'un autre côté, moi je pose la question, en dehors des jardiniers voisins, éventuellement s'ils n'aiment pas les vieilles portes ou les morceaux de sommier, qu'est-ce que ça gêne pour leur usage ?
Ah mais attention, il faut quand même dire qu'en matière de gestion, à partir du moment où on rentre dans un projet, ça veut dire qu'on aménage autre chose.
Oui.
D'accord ? Vous comprenez, je suis un gestionnaire, donc je comprends bien que...
Tout ne peut pas être tiré au cordeau non plus.
Non, et effectivement, ce qu'il y a, c'est que si on veut faire quelque chose de bien, et pour longtemps, parce que ça, il est certain que si on aménage très peu d'un côté et pas de l'autre, et qu'au milieu on laisse un truc comme ça, je comprends que ça... Moi, personnellement, je comprends bien aussi. Moi, je me suis arrangé une cabane, mais effectivement, il faudra qu'elle saute.
Voilà, donc vous êtes attelé à ce grand projet d'aménagement. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a comme... est-ce qu'il y a des règles particulières que doivent respecter les usagers de ces jardins en matière de plantation, par exemple? Est-ce qu'il y a des plantes qui sont interdites, ou bien est-ce qu'il y a des choses...
Non. Nous avons pas de plantes vraiment interdites. Mais si, le cannabis, bien sûr. Mais ça...
Je n'avais pas pensé à lui. Je pensais à des choses comme les bambous qui sont un peu envahissants, ou des plantes comme
non,
ça.
Non, mais les bambous, effectivement, il y en a qui en avaient. Ils se sont envahis. Et c'est eux-mêmes qui ont été obligés de les enlever ou de les... La nature, si on la laisse aller, elle envahit. Ça, c'est vrai que, on essaie quand même de... Mais ça a quand même un caractère toujours assez agricole, quoi, vous voyez.
Voilà. Ça,
donc, effectivement, si un jour les géomètres passent là-dedans, ça, c'est... Ça va être un peu... C'est pour ça qu'au départ, ça fait de la réticence.
D'accord.
Mais les gens ont aussi compris... que l'échéance, elle va s'allonger un peu. Et moi-même, parce que vous savez, si tout à l'heure vous avez dit on ne va pas demander, on va faire comme aux dames, on ne va pas lui demander l'âge, je veux quand même dire que c'est mon année des 75 ans.
Ah,
donc vous comprenez que...
Vous êtes un jeune homme.
Oui, mais oui, je... oui. On ne se rattrape pas, mais on se suit.
Oui. Alors, écoutez, maintenant... je vous souhaite que tout ça se passe bien et que vous voyez la fin de cet aménagement dans les meilleures conditions. Mais j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre vie de retraité en dehors des jardins. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Comment vous occupez votre temps? Est-ce que les jardins vous occupent
alors,
de votre
temps? Mais d'une part...
Je sais, et vous me l'avez dit une autre fois, je sais que vous êtes un grand collectionneur. Alors, est-ce que vous venez nous parler un petit peu de vos autres passions? Parce que vous en avez peut-être d'autres, et en particulier de cette passion de collectionneur.
Oui. Eh bien, d'une part, je peux le dire, je suis un homme que je vis seul. Quand on est seul, on se trouve des passions. Mais c'est des passions que j'avais déjà un peu, pas en sommeil, mais que depuis un certain temps, une quinzaine d'années, là, je m'y suis mis vraiment. Donc, j'ai commencé par collectionner les assiettes de Félibré, puisque je fais du folklore, beaucoup me connaissent. Ça fait 30 ans que je danse au groupe folklorique Los Crocantes Cornobio.
Voilà, alors là, on vous a admis dans ce groupe, alors que vous êtes originaire du Lot.
Du
Lot-et-Garonne, que vous avez passé une bonne partie de votre vie à Brive, et là vous êtes un des piliers du groupe folklorique local. Ça, c'est formidable. Alors, voilà. Ça, vraiment,
oui,
c'est un bel exemple de tolérance.
Il faut dire que je suis un occitaniste.
Ah, d'accord.
Voilà. Bon. Et d'ailleurs, j'ai rencontré tous les ans, on fait une réunion des anciennes de mon école dans le Lot-et-Garonne, et j'ai rencontré une jeune fille, mais qui a 3-4 ans de moins que moi, donc vous voyez...
Une ancienne jeune fille.
Une ancienne copine d'école, une voisine même, et on ne s'était pas vu depuis 50 ans presque. Et alors quand je lui ai expliqué ça, elle m'a dit « Ah, mais oui, je me rappelle que toi, tu parlais toujours patois. »
Ah, d'accord.
Ah oui, parce que jusqu'à l'âge de 30 ans, avec ma mère, c'était toujours en patois.
Ouais. Et est-ce qu'il y a c'est très proche, l'occitan qui est parlé ici, et de celui que vous parliez avec votre
ah,
mère?
Ah oui, il y a des différences. Ouais. Les gens, certains ont compris, d'autres n'ont pas compris, c'est que l'occitan et le patois, on a commencé à parler patois, et très régional, hein, et après l'occitan est venu parce qu'on y a fait une graphie. Comprenez ? Oui,
langue,
ah non, mais on a fait une graphie de l'occitan. Ouais. Avec c'est ça que c'est devenu un occitan. Voilà. Alors, donc, je commençais par faire les assiettes de Félibré, puisque je fais depuis 35 ans les Félibré. Je les ai toutes, d'ailleurs. Et depuis, j'ai toutes les affiches de Félibré depuis 1903, que j'ai monté sur des supports. Et puis, depuis quelques années, je collectionne aussi, je me suis mis à collectionner les salières. Vous savez, d'autrefois, des salières en verre.
Oui.
J'en ai en verre, en grès, en bois. Voilà, d'accord. J'en ai 320.
Mais pas les poivrières.
Salières et poivrières, c'est l'ensemble. Salières et poivrières, oui, c'est... Elles sont toutes par deux. Hein.
Mais dites-moi, c'est formidable ce que vous avez là, c'est une vraie richesse. Toutes les assiettes des Félibré et toutes les affiches. Pourquoi vous faites pas vous proposez pas une exposition de
Ah,
ça
mais c'est déjà fait. C'est
ah
déjà
bon,
fait.
Vous l'avez déjà fait.
Oui, j'ai déjà exposé au Château des Isards il y a quelques années.
Très bien.
J'ai déjà exposé mes affiches, parce que il y a quand même bientôt 100 affiches de Félibré depuis 1903. Oui. Et puis je les monte sur des supports 50-60 là, vous voyez, collés et tout. Donc j'ai déjà fait à Coulonnier, je l'ai déjà fait à Périgueux, et pour le centenaire du Bourna, l'association du Bourna. Voilà, donc ça fait que je fais la danse aussi, bien sûr, depuis 30 ans là. Et donc voilà, et puis j'ai 4 petits-enfants, donc aussi ça fait, je n'ai qu'une gamme périgueux, mais donc vous voyez que...
Vous échappez quand même à la garde et aux corvées des grands-parents en partie, parce que quand ils sont tous là à côté...
Ah oui, mais non, mais ils ne sont pas souvent tous là, parce qu'il y en a 3 qui sont sur Toulouse et l'autre est sur Périgueux. D'accord. Et d'habitude je l'ai le mercredi, mais aujourd'hui je ne l'ai pas, donc...
Je crois que vous avez oublié quelque chose dans vos collections, là, dont vous m'avez parlé un jour. C'est les collections des menus... Des repas des anciens. Alors là, il est temps de faire un nouvel appel, parce que votre appel que vous m'aviez demandé de faire l'autre fois a été diffusé, mais je vous demande de faire à nouveau un appel solennel.
Oui, alors, donc, effectivement, comme j'ai l'esprit collectionneur, un jour, chez un ami qui est à Périgueux, au pont de la Cité, il y avait une chaudière où c'est qui voulait aménager une prise, et comme je suis un peu pas trop mauvais en électricité, que ça me passionne, ça aussi, il m'a dit, est-ce que tu ne pourrais pas venir me faire une prise? Alors je suis allé lui faire dans cette prise, et sous la chaudière, j'ai trouvé un papier. C'était un menu du repas de la commune 1983.
Oui.
Donc ça tombe bien, parce que c'était l'année que j'étais arrivé en Dordogne. Et depuis, je collectionne donc ces menus des repas des anciens. Et il m'en manque une dizaine. Et à la mairie, ils ne les ont pas. Enfin, ils en ont peut-être quelques-uns, mais ils n'ont pas. Et d'ailleurs, ils ne savent pas depuis quand ça existe, ce repas. Mais il semblerait que c'est à peu près la période. C'était là le menu, il a été fait sous monsieur Sigala à ce moment-là.
Et est-ce que vous avez cherché du côté des imprimeurs qui auraient pu imprimer ces...
Non, parce que c'est fait par la commune, ça. Ah, c'est le service de la commune, le service d'impression, là, je pense. Non, j'étais allé voir...
Quand vous laissez accéder aux archives et puis que vous fouillez
J'ai demandé aux archives de la commune, mais ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas... J'en ai déjà certains où j'ai en double, même en triple, mais ça me permettrait de faire, si j'arrivais à faire une collection complète, eh bien, un beau jour, vous savez, je les offrirai à la municipalité.
À titre d'archive de la mémoire de la commune. Mais voilà. Est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs quelles sont, est-ce que de mémoire vous savez quelles sont les années qui vous manquent et qui vous feraient vraiment besoin?
Disons que de 83, je dois l'avoir à partir de 4, j'ai 84. Disons que là j'ai pas amené le truc parce que j'avais ma liste, c'est vrai. Non, là j'ai pas de 83, 85. Après de 85, les 10 qui suivent là peut-être. Mais bon, voilà. Au total, il doit m'en manquer une depuis 83. Mais on n'est pas certain qu'il n'y en ait pas eu avant.
Ah.
Oui, personne n'a pu me le dire.
Ah ben ça, vous pouvez le trouver alors en allant aux archives départementales et puis en fouillant dans la presse. Ça, vous retrouverez la trace. Il y aura probablement des petits articles dans la presse pour dire qu'il y a eu un repas des anciens à Coulié-Chamy à telle date.
Ah oui, peut-être, effectivement. Ouais, c'est...
Avant 83.
Mais bon, disons que peut-être il y a une dizaine d'années que je suis allé à la mairie, là, peut-être qu'il faudrait que j'y revienne, là, pour leur redemander. Peut-être que depuis, il y a eu des personnes qui ont changé, qui ont une nouvelle façon de chercher, je ne sais pas.
Ça pourrait faire l'objet d'un legs, soit à la commune, soit aux archives départementales, parce que ça fait partie du patrimoine départemental.
Tout à fait, oui. Et puis j'ai eu une autre dernière passion, qui est une passion, mais je ne suis pas le seul à avoir ça, c'est que depuis quelque temps, je me suis mis à faire de la généalogie, mais ça c'est personnel. S'il y a des gens qui sont intéressés par cette... par la généalogie. Il y a un article qui a passé dans la presse, mais que je vais dire la date exacte, qui est au centre social de Chamiers, là, à Centre Saint-Exupéry,
oui,
là.
Oui.
Le 2 février, à 14h, il y a une réunion pour mettre justement comme un club de généalogie en marche.
D'accord. Et qui aurait son siège, qui se réunirait au Centre Social Saint-Exupéry ou...
Voilà, oui.
D'accord.
Il y a un spécialiste, c'est un monsieur, mais je ne me rappelle plus de son nom.
J'espère que les auditeurs ont compris, ont entendu, Michel. Donc le 2 février.
Le 2 février à 14h.
Un jeudi au Centre Social Saint-Exupéry, réunion de fondation, de formation d'une association locale de généalogie.
Voilà.
Et dont Michel sera... un des piliers, comme il est un des piliers déjà.
En plus,
de
j'habite
de
juste en face.
Chose, voilà. Michel, je vous remercie beaucoup de tout ce que vous nous avez raconté sur votre vie, votre profession et vos multiples passions.
Ben écoutez, je suis content un peu de faire d'évoquer. Et puis, comme à l'origine, c'est le but, c'était pour le jardinage. Donc, j'espère que avec ce réaménagement, peut-être même. Je dirais qu'on peut peut-être faire un peu plus de jardin.
C'est ce qu'on vous souhaite, et en tout cas, on vous remercie beaucoup pour tous les services que vous avez rendus comme ça à la commune.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Je m'abandonne si tu m'aimes. Je me fous du monde entier.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.